Europe Midi, Romain Desarbres.
12h30, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. C'est l'information politique de la mi-journée. Les juges de la Cour de justice de la République, la CJR, convoquent l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, demain, en vue d'une éventuelle mise en examen. Nos informations dès le début d'Europe Midi avec Louis Dragnel. Je voulais qu'on revienne dans Europe Midi sur ce fourgon de police qui recule face à des jeunes agressifs. Ça se passe dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes, en grande banlieue parisienne. C'était hier, en fin de journée, le récit avec Marion Dubreuil. Le gouvernement veut que la Sécu rembourse à 100% la contraception pour les jeunes femmes de moins de 26 ans. À partir du 1er janvier prochain, on sera avec la présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens. On va aller au Palais de justice de Paris où se tient le procès des islamistes du 13 novembre. Gladys Laffitte est sur place pour Europe 1. Comment faire pour que ce procès ne soit pas une tribune pour le principal accusé, Salah Abdeslam. Et puis, adieu Bebel, l'hommage national, c'est cet après-midi à 16h30. Les fans sont déjà là, nous dira Zoé Pallier en direct. Agnès Buzyn est donc convoquée demain à la Cour de justice de la République. Elle pourrait être mise en examen pour sa gestion de l'épidémie de Covid. Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Chef du service politique d'Europe 1, qu'est-ce qu'on sait de cette convocation ?
Eh bien déjà, en fait, la Cour de justice de la République lui reproche sa gestion de la crise et son manque d'anticipation de son administration. Et alors, pour aggraver un petit peu le cas d'Agnès Buzyn, et c'est ça aussi qui a suscité l'énervement et l'interrogation des juges, c'est qu'elle a déclaré le 24 janvier 2020 le risque de propagation du coronavirus en France est très faible. Et puis, quelques mois plus tard, après son échec aux élections municipales, elle a déclaré « on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade » et elle précise, d'ailleurs, c'était dans un entretien accordé au Monde, qu'elle a prévenu Emmanuel Macron de cette mascarade. Alors, ça intervient dans un contexte un peu compliqué, puisque Agnès Buzyn, en plus, n'était pas venue à la première convocation de la Cour de justice de la République en juillet. Ça avait fortement déplu. Et puis, il faut rappeler aussi, voilà, pourquoi la Cour de justice de la République ? Parce que c'est la seule instance qui est en fait habilité à convoquer et à juger les ministres dans le cadre de ce qu'ils ont fait dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ça aura lieu demain, vendredi 10 septembre à 9h, vous l'avez rappelé. Et donc, pour l'instant, selon nos informations, elle risque donc une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais il faut aussi rappeler qu'à ce stade, elle est présumée innocente et qu'elle a déjà été aussi entendue par des commissions spéciales à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et pour terminer, plusieurs ministres d'ailleurs font l'objet de cette enquête, mais ils ne sont pas du tout tous convoqués demain. Il y a notamment donc, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ainsi que Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé.
Louis, les ministres sont responsables, évidemment, ça ne fait pas de débat, mais est-ce que ça ne peut pas avoir des effets pervers, ces convocations devant la justice, devant la Cour de justice de la République ?
Ben alors, il y a deux écoles. Il y a le camp de ceux qui vous disent que c'est très bien, en fait, il y a plus de transparence et que du coup, en fait, ça responsabilise davantage les ministres et donc ils doivent assumer pleinement leurs décisions. Et puis de l'autre côté, il y a un autre camp, si on peut parler comme ça, de ceux qui vous disent, mais en fait, les ministres, du coup, ont peur, tremble et n'ose plus prendre de décision parce qu'en fait la moindre décision forcément peut avoir des conséquences judiciaires pour eux. Et puis on voit aussi, ça s'est multiplié ces dernières années, il y a de plus en plus de recours de la part d'associations, de la part de personnalités privées aussi, et donc forcément voilà, il y a un climat un peu de peur et de défiance chez les politiques, et ça voilà, c'est un fait nouveau.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, restez avec nous. Louis, il est 12h34.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, qu'on nous parle de reconquête républicaine dans les quartiers difficiles et les avancées ne sautent pas aux yeux, surtout quand on voit ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Un fourgon de police a été littéralement attaqué. Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour Romain.
Marion, déjà, racontez-nous ce qui s'est passé.
Bien, ce fourgon de police effectuait une ronde hier en fin d'après-midi quand les policiers ont vu un groupe d'une vingtaine de personnes postées dans un parc qui se sont précipitées sur eux. D'après l'un des policiers, un individu aurait même brandi une arme de poing et tiré dans leur direction, mais il n'y a pas eu d'impact sur le véhicule. Les policiers ont alors tenté de disperser le groupe. Ils ont ouvert la porte latérale du fourgon et lancé des gaz lacrymogènes. Au même moment, ils ont été la cible de jets de projectiles et notamment des cocktails Molotov. Comme on peut le voir sur une vidéo amateur, l'un des engins explosifs a claqué sur le capot du fourgon sans prendre. Aucun blessé n'est à déplorer. Plus tard, dans la soirée, vers 1h du matin, des affrontements ont éclaté dans un autre quartier à proximité à Montconseil, avec des palettes incendiées et la prise à partie des pompiers lors de leur intervention. Les violences urbaines ont éclaté jeudi dernier avec l'interpellation de deux frères, l'un pour rodéo urbain et l'autre pour menace de mort et violence. Leur mère, qui avait pénétré dans le périmètre de sécurité des forces de l'ordre, avait été repoussée par le jet de gaz lacrymogène d'un policier. La scène avait été filmée, elle était devenue virale sur les réseaux sociaux.
Merci Marion. C'est le symbole d'une autorité de la police qu'il faut restaurer dans les quartiers dangereux. Louis Dragnel, ce fourgon qui recule face à des délinquants, c'est une image terrible, c'est mauvais pour l'exécutif.
Oui, c'est toute la question du poids des images et un peu de la guerre des perceptions. Alors, il y a trois raisons aussi qui expliquent que pour l'exécutif, ça tombe mal, parce qu'une semaine, ça intervient une semaine après le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, où il était venu d'abord et avant tout pour répondre au fléau de l'insécurité dans la cité phocéenne. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé donc en Essonne une unité un peu spéciale sur place. Il s'agit de la CRS 8, une CRS qui est basée à Bièvre, juste à côté du RAID. Et en fait, pour la petite histoire, cette unité a été lancée juste après les Gilets jaunes et les manifestations où la question du maintien de l'ordre était très compliquée. Une compagnie de CRS de haut du spectre, en quelque sorte, projetable à tout moment en France. Et d'ailleurs, ça avait suscité des débats au moment de sa création. Et bien en fait, il y a un véritable enjeu politique parce que c'est un peu la vitrine du super maintien de l'ordre que cherche à mettre en avant le ministre de l'Intérieur. Et enfin, enjeu politique très fort pour Emmanuel Macron, parce qu'il conclura, figurez-vous, mardi prochain, le Beauvau de la sécurité. D'ailleurs, selon nos informations, ça devrait probablement avoir lieu à Roubaix. Et en fait, ce Beauvau de la sécurité avait été lancé précisément en raison du malaise des policiers qui se font attaquer et qui ne sont pas assez soutenus. Autant dire que ce qui se passe en Essonne n'est pas du tout considéré comme une énième scène de la vie quotidienne par l'Élysée, mais bien comme un problème politique potentiellement très compliqué.
Merci beaucoup Louis pour toutes ces informations. Ce sondage CSA pour CNews, 60% des Français sont favorables aux expulsions des familles de délinquants dans les immeubles HLM. On avait parlé la semaine dernière de cette femme à Nice qui va devoir quitter son logement HLM à cause du comportement de son fils trafiquant de drogue. C'est important pour les femmes de moins de 26 ans. Elles vont pouvoir se faire rembourser à 100% leur contraception. Élise Dangean, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Élise. Qu'a annoncé exactement Olivier Véran ?
Alors concrètement, le ministère de la Santé va élargir à partir du 1er janvier prochain la gratuité de la contraception à toutes les femmes de 18 à 25 ans. Jusqu'ici, c'était le cas uniquement pour les jeunes filles de moins de 18 ans. La mesure va bénéficier à environ 1 600 000 femmes françaises et ça ne concerne pas que la pilule. Seront également remboursés l'implant, le stérilet ou encore le diaphragme. Décision prise, dit le ministre Olivier Véran, car il y a un recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes. Pour des questions, vous l'aurez compris, financières, c'est pour ça que cette prise en charge couvrira aussi les consultations pour la prescription, les examens biologiques, l'éventuelle pause et même la contraception d'urgence comme la pilule du lendemain. Pour un total de 21 millions d'euros par an, c'est le coût que va devoir assumer l'assurance maladie.
Merci beaucoup Élise. Bonjour Joël Belaïch à la Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui renoncent à la contraception à cause du coût.
Alors, il y a beaucoup de jeunes femmes qui malheureusement renoncent à la contraception. Est-ce que c'est exclusivement à cause du coût ou à cause de tout ce qu'il y a eu comme pilule bashing? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Ce remboursement, c'est ce que le collège demandait depuis de longues années. Nous espérons vraiment que cela va faire baisser la proportion d'IVG dans cette catégorie. C'était très bien jusqu'à 18 ans. Ils le font maintenant.
Parce que quand la gratuité avait été accordée aux 15-18 ans, le taux de recours aux IVG avait déjà baissé. C'est une conséquence de cette mesure.
C'est exactement cela. C'est pourquoi nous espérons exactement la même chose avec ce report jusqu'à 25 ans inclus.
J'ai une question. Moins de 26 ans, donc jusqu'à 25 ans inclus, c'est le bon âge ?
Je suis assez d'accord avec ce qu'a annoncé le ministre. 25 ans, en général, les femmes commencent à avoir une vie professionnelle, donc elles peuvent plus le payer. Bien entendu, l'idéal serait une contraception gratuite. Mais je crois qu'il ne faut pas rêver, il faut assurer la solidarité nationale. Moi, le collège est assez content, et moi, personnellement, je suis assez contente des 25 ans. Après, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des exceptions pour les femmes en difficulté financière.
Merci beaucoup, docteur Joël Belaïch-Allard. On a entendu votre proposition faire un petit peu plus pour les femmes donc en difficulté financière, donc au-delà de 26 ans. Il est 12h40. Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, la suite du procès des attentats du 13 novembre. On ira au palais de justice retrouver Gladys Laffitte. Et puis, on va parler également des inondations et de la météo un petit peu capricieuse dans le sud. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h42, il ne va rien falloir attendre de Salah Abdeslam. Le terroriste a tenu des propos provocants, indécents, au premier jour du procès des attentats du 13 novembre. Gladys Laffitte suit le procès pour Europe 1. Tout le monde reste marqué, Gladys, par les propos de Salah Abdeslam.
Ah oui, des propos qui sont majoritairement perçus comme de la provocation ici, mais certains avocats de partie civile avec qui j'ai pu discuter m'ont expliqué qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à autre chose, hein, car c'est finalement la même attitude que Salah Abdeslam a montré au cours de ces 6 dernières années. Sa détention a été émaillée de plusieurs incidents avec les surveillants. Je vous rappelle qu'il est à l'isolement et filmé 24 heures sur 24, ce qu'il vit très mal, et il ne s'est jamais privé d'en parler devant le juge des libertés et de la détention. En tout cas, ici, personne ne veut le starifier, je cite d'ailleurs. Les parties civiles saluent l'attitude du président qui recadre très calmement mais très fermement Salah Abdeslam à chaque fois. Aujourd'hui, la salle d'audience est plus clairsemée, hein, mais tous les accusés sont installés dans le box ce midi. L'audience va s'ouvrir dans quelques minutes, mais les accusés n'auront pas la parole, pas avant novembre, lorsqu'ils seront interrogés sur leur parcours, sauf si, comme hier, certains s'expriment sans y avoir été invités.
Gladys Laffitte, Gladys qui suit donc ce procès pour Europe 1 et qu'on va retrouver à chaque grand moment de ce procès qui va durer jusqu'en mai prochain. Des pompiers volontaires qui refusent de se faire vacciner contre la Covid. Tous les pompiers ne se sont pas fait vacciner et non, certains ont manifesté ce matin à Nice. Je voulais écoutez, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on écoute ce responsable interrogé par Frédéric Michel.
Nous sommes contre l'atteinte des libertés, parce que l'obligation, elle se pose de fait par la loi. Le Conseil constitutionnel a validé la loi, c'est trop tard. Et comme nous sommes rentrés maintenant, au travers de cette loi, dans un schéma vaccinal obligatoire pour les pompiers, annuellement, comme l'hépatite, comme le BCG, comme le tétanos, ben ça veut dire qu'on sera tout le temps vacciné. Effectivement, ça pose problème, d'autant que ce n'est pas discuté et que scientifiquement et médicalement, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Un pompier volontaire qui exerce son métier, qui donne de son temps, pompier volontaire, c'est quelque chose que je donne, c'est un service que je rends à l'État, à la population, donc si je n'ai pas envie de vacciner, je ne me vaccine pas. Donc il y aura une désaffection certainement d'un certain nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui, eux, ben, ont déjà un métier, mais nous, ce qui nous préoccupe essentiellement, c'est la suspension, la perte de salaire de nos collègues qui feront ce choix. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quels seront le nombre de sapeurs-pompiers qui ne souhaiteront pas se faire vacciner.
Voilà, je suis sûr que ça vous fait réagir chez vous ou dans votre voiture. Voilà, c'est un pompier volontaire qui ne veut pas se faire vacciner. Les journées parlementaires des Républicains, elles ont commencé ce matin à Nîmes. Je voulais qu'on en parle parce que tous les candidats à la primaire sont présents aujourd'hui. Xavier Bertrand, qui, vous le savez, hein, a quitté les Républicains, ne viendra que demain. Mais il ira, et ça c'est un signe politique. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place. Quels sont les enjeux, dites-nous, de ces deux jours ?
Eh bien, le premier enjeu, c'est la bataille des soutiens. Qui emportera l'adhésion des 259 parlementaires LR en poste actuellement à l'Assemblée, au Sénat et au Parlement européen ? Véritable gage de crédibilité pour se lancer dans la course à la présidentielle. Les trois quarts d'entre eux sont présents à Nîmes et l'opération séduction a commencé. À ce compte-là, c'est Xavier Bertrand qui semble mener la course, même si officiellement aucun prétendant n'a donné de chiffres précis sur les parlementaires qu'ils soutiennent. Derrière le président de la région Hauts-de-France, c'est surprise Michel Barnier qui apparaît comme le plus soutenu. L'ex-commissaire européen a d'ailleurs été le premier à se plier à l'échange avec les élus républicains ce matin. Un discours concis sur sa volonté de gagner ensemble, puis des questions sur ses priorités en tant que candidat ou la situation financière de la France. Suivront cet après-midi Valérie Pécresse, puis Philippe Juvin et Éric Ciotti, avant des prises de parole des barons de la droite, Gérard Larcher et Christian Jacob notamment. Chaque soutien compte désormais pour s'afficher comme le candidat le plus à même de faire gagner la droite.
Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre. 4 départements en orange. Il y aura un point météo dans un instant, mais je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. L'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn et Garonne. Cette nuit, il y a eu des inondations à Agen. Vous avez peut-être vu les images, jusqu'à 2 mètres d'eau. Bonjour Patrick Gallois de Météo France.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. C'était un record de précipitations à Agen.
En effet, il est tombé en quelques heures, trois heures à peine, 130 mm, c'est-à-dire 130 litres d'eau au mètre carré dans la ville d'Agen, c'est-à-dire plus de deux mois de pluie habituelle en cette époque de l'année qui sont tombés en l'espace de trois heures à peine. Et c'est tout à fait inédit dans la région. On n'avait jamais vu ça puisque le précédent record de pluie en 24 heures était seulement de 82 mm.
Qu'est-ce que vous prévoyez dans les prochaines heures?
Alors la situation reste propice au développement orageux parce qu'on a encore de l'air relativement chaud sur la France, même s'il est un peu moins chaud qu'hier. Et sur cet air chaud vient arriver de l'air froid et instable en altitude, ce qui favorise donc les orages qui vont à nouveau se développer cet après-midi un peu partout, mais notamment dans le sud-ouest et donc dans ces quatre départements en vigilance orange, où l'on attend, un peu comme hier, des cumuls de pluie qui peuvent être importants en l'espace de quelques heures, a priori moins importants qu'hier soir à Agen, mais on pourrait atteindre localement des cumuls de pluie de 60 à 80 mm en l'espace de quelques heures, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il tombe en général en un mois en cette saison.
En cette saison. L'été n'a pas été terrible, hein. Ça c'est pas un grand scoop, Patrick Gallois. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de septembre? C'est compliqué, hein, dès qu'on pose cette question à un prévisionniste de Météo France, on dit « Oh là là, attention, on peut pas prévoir à plus de quelques jours ». Mais vous avez un petit sentiment, une petite information à nous donner pour le mois de septembre ?
Alors, il est vrai que l'été n'a pas été extraordinaire, notamment le mois d'août qui a été trop frais et pas assez ensoleillé. Mais depuis le début du mois de septembre, on est reparti sur d'autres bases. Sur les 8 premiers jours de septembre, on a un excédent de 3 degrés sur la température à l'échelle du pays. Donc, ce qui est quand même assez important, avec des pointes à plus de 30 degrés sur pas mal de régions. Et cette tendance à la douceur, si ce n'est la chaleur, devrait persister pour les 7 jours à venir, ce qui nous fait dire qu'il y a de bonnes chances qu'on ait finalement un mois de septembre qui s'annonce plus chaud que la normale. Après, bon, au niveau du temps, ce sera un temps assez changeant, avec des périodes de beau temps qui alternent avec des dégradations parfois marquées comme ce que nous connaissons actuellement. Le beau temps va revenir au cours du week-end et en début de semaine prochaine, et on pourra avoir une nouvelle dégradation en milieu de semaine prochaine. Donc voilà, un temps en alternance, mais des températures qui restent quand même d'un bon niveau pour une fin d'été.
Température d'un bon niveau pour une fin d'été. Merci beaucoup Patrick Gallois. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous. Très bon après-midi. Restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on va aux Invalides. Avant, l'hommage à Jean-Paul Belmondo. Et puis on va parler de la Ligue de foot qui a eu la main dure hier soir pour juger les incidents du match Nice-OM. Il y a eu des condamnations sévères. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h52. Tiens, est-ce que vous allez regarder l'hommage national à Jean-Paul Belmondo cet après-midi? Ça sera à 16h30 aux Invalides où l'on rejoint tout de suite Zoé Pallier. Bonjour Zoé. Vous êtes sur place. On connaît le programme, tiens.
Oui, alors vous l'avez dit Romain, plus que 4 heures désormais avant le début de la cérémonie. Au programme, un éloge funèbre, une minute de silence ou encore la projection d'extraits des films de Belmondo. Hommage retransmis sur des écrans géants installés déjà sur les pelouses de l'esplanade. Alors ça c'est pour ceux qui ne sont pas arrivés assez tôt parce que les fans avec lesquels je me trouve, eux, eh bien ils se sont levés aux aurores pour être certains d'assister à la cérémonie. Alors je suis avec Chris. Chris, pour vous c'était évident. Il fallait venir aujourd'hui. Comment vous vous êtes organisé pour arriver parmi les premiers?
Alors il a fallu caser les enfants et prendre des dispositions pour emporter du télétravail. Et puis j'ai sauté dans le TGV de 5h du matin à Annecy.
Donc vous êtes venu avec votre ordinateur là?
Oui, tout à fait. Et je suis contente que la pluie soit arrêtée parce que c'est pas pratique pour travailler sinon.
Pour vous, Belmondo, il a beaucoup compté?
Oui, beaucoup. À l'âge de 10 ans, je suis descendue de ma montagne en bus avec ma grand-mère pour aller voir l'As des As. Et là, ben, ça a été une révélation. Les posters dans la chambre, la collection de vidéos, monopoliser la télé familiale à chaque diffusion de Bebel et monter à Paris le voir au théâtre. Et là, quand on attend à la sortie et qu'on rencontre un homme aussi gentil et bienveillant avec ses fans, ça nous donne un espèce de modèle de vie, de joie de vivre, de ne pas renoncer devant les difficultés, de faire les choses par soi-même et une positivité de vie avec toujours son charme, sourire éternel.
Là, il vous reste plus que 4 heures à patienter. Merci Chris. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas pu se libérer cet après-midi, alors ce sera entrée libre à partir de 19h30. Le cercueil restera dans la cour des Invalides pour permettre à tous de dire un dernier au revoir à Bébel.
Merci beaucoup Zoé. Ah, c'est formidable, le télétravail aux Invalides avant l'hommage national. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Romain.
Vous vous souvenez évidemment tous des incidents du match Nice-Marseille. Envahissement de terrain, jet de projectiles et bagarres. Ça n'a pas du tout fait rire la Ligue de foot qui a eu la main lourde, Jean-François, hier soir.
Oui, la pilule a du mal à passer à Marseille, notamment, où on espérait clairement obtenir la victoire sur tapis vert pour défaut de sécurité de la part de l'organisateur du match, hein, l'OGC Nice. Alors le match sera finalement à rejouer à huis clos sur terrain neutre. 3 Marseillais sont sanctionnés à titre individuel. L'adjoint de l'entraîneur Sampaoli, suspendu jusqu'à la fin de la saison pour un violent coup de poing. 2 matchs pour le défenseur Alvaro Gonzalez. 1 match avec sursis pour Dimitri Payet, qui avait pourtant été atteint par un projectile, mais qui est symboliquement puni pour sa réaction virulente. De son côté, Nice écope d'une pénalité d'un point au classement et de 3 matchs à huis clos, sauf que l'un a déjà été joué, l'autre c'est celui contre l'OM, autrement dit, un match simplement de suspension ferme, là c'est pas terrible, et c'est surtout bien peu pour le directeur de la communication du club marseillais, Jacques Cardoz.
C'est une sanction qui me paraît pas être à la hauteur des violences qui ont été commises, des 150 personnes qui ont envahi le terrain, des 74 projectiles qui ont été balancés sur la pelouse, des saluts nazis qu'on a pu voir en tribune. Plus que pour la décision à l'encontre de Nice ou de Marseille, nous sommes surtout déçus pour le manque d'exemplarité à l'égard du football français.
Voilà, pas d'appel normalement du côté de Nice. En revanche, l'OM réserve sa décision et la communiquera en début de semaine prochaine.
Merci beaucoup Jean-François. 12h56, le temps avec Anissa Haddadi. Évidemment, prudence, on le disait dans le journal, avec le retour des orages dans le sud-ouest cet après-midi. Hein.
Oui, l'Occitanie est en effet la région la plus exposée aux orages cet après-midi. Après une accalmie ce matin, c'est vrai que les orages se réactivent là dans le sud-ouest et en particulier sur le Midi-Pyrénées et la Haute-Garonne. La vallée de la Garonne est concernée par ces orages qui risquent par endroits d'être violents avec des cumuls de pluie importants. Alors pas autant que sur la ville d'Agen hier qui a connu un épisode exceptionnel, mais on va rester vigilant et on va suivre ce qui se passe sur les plaines toulousaines. Sur le reste du pays, nous avons une bande qui traverse toute la France, des Pyrénées jusqu'au Grand Est, avec beaucoup d'averses tout au long de l'après-midi, des orages qui éclatent notamment sur le sud du Massif central. Partout ailleurs, c'est le retour des éclaircies sur l'ouest et puis au bord de la Méditerranée, sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Le temps reste sec avec un ciel légèrement voilé qui laissera de temps en temps passer les rayons du soleil. Alors les températures, elles ont baissé sur le nord-ouest après le passage des orages. 21 degrés à Brest, 22 à Dunkerque, 24 pour Bordeaux et Angoulême. Ailleurs, il fait encore lourd aujourd'hui, 25 degrés à Lille et Lyon, 26 pour Belfort et Montpellier, 27 à Paris et 30 degrés à Marseille.
Merci Anissa, 12h57. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. On se retrouve demain, très bel après-midi sur Europe 1.